allons continuer d'entrer dans cette grande prière sacerdotale de Jésus, la prière du Fils bien-aimé. Je reprends au verset 20. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, par leurs paroles, croient en moi. Vous voyez, juste avant, Jésus soulignait ce qui pour nous est si important. Consacre-les dans la vérité, ta parole à toi est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. On est consacré en vérité par la consécration du Christ. C'est dans la consécration du Christ qu'on est consacré en vérité. Donc ça va très loin. Le Christ est consacré dans la vérité comme fils bien-aimé du Père. Il est consacré dans la vérité, j'allais dire doublement, comme toujours, la double sainteté du Christ. Il est consacré en vérité par le Verbe, parce qu'il est consacré par le Verbe de Dieu, c'est sa première sainteté. La nature humaine du Christ est sainte parce qu'elle subsiste dans le Verbe. Et elle est consacrée dans la lumière du Verbe. Elle est consacrée dans la vérité du Verbe. Une consécration personnelle en raison du mystère de l'union hypostatique. Et Jésus est consacré par la plénitude de sa grâce. La plénitude de sa grâce qui est reçue dans son âme humaine. Il faut toujours bien distinguer les deux. Ce que saint Thomas fait dans son étude, dans la somme sur le Verbe incarné. Et nous pouvons le faire de nous-mêmes sans grosse difficulté, parce que notre foi nous montre bien que nous croyons dans le Verbe qui assume la nature humaine et qui l'assume d'une façon telle que la nature humaine subsiste dans le Verbe. Si la nature humaine subsiste dans le Verbe, cette nature humaine a dans le Verbe un état unique. Cette nature reçoit la plénitude de grâce. Et recevant cette plénitude de grâce, parce qu'il est tout proche de la source de toute grâce, il est dans cette proximité telle qu'il ne peut pas y en avoir une plus grande proximité, puisqu'il est uni personnellement, hypostatiquement, à sa source, au Verbe, qui ne fait qu'un avec le Père et qui sort de toute grâce. Et donc l'âme humaine du Christ reçoit la plénitude de grâce. Toujours l'exemple que prend saint Thomas, si on est plus proche de la source, on reçoit plus que si on est éloigné de la source. Et il prend l'exemple très simple du feu. Si vous êtes tout proche du feu de cheminée, vous êtes bien chauffé. Si vous êtes très loin, vous êtes moins bien chauffé. Eh bien, l'humanité sainte du Christ est tout proche de la source de toute grâce, qui est la très sainte Trinité. Puisque son humanité est unie substantiellement au Verbe, est unie hypostatiquement, personnellement au Verbe, sa nature humaine a donc cette proximité unique et reçoit la plénitude de la grâce, la plénitude de la charité. Dans le Christ, il n'y a pas de foi et d'espérance, selon saint Thomas et beaucoup de pères de l'Église. Il y a donc en lui une plénitude de charité. Et c'est dans cette plénitude de charité qu'il est consacré dans sa nature humaine, d'une façon particulière. Vous voyez, la double consécration. Eh bien, Jésus, dans sa prière, veut que nous vivions, nous aussi, de sa consécration. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. C'est lui qui est source de toute consécration. La consécration en vérité. Vous voyez la différence entre la consécration religieuse et la consécration en vérité. C'est important de bien saisir cela. La consécration en vérité relève directement de la grâce et de la grâce sanctifiante. Ce n'est pas quelque chose de charismatique, c'est la grâce sanctifiante. Et c'est directement lié à la consécration du Christ. La consécration religieuse, c'est par rapport à notre conditionnement humain, où nous voulons prendre toujours les petits sentiers, les raccourcis. On va aller plus vite. C'est ça le sens de la vie religieuse. C'est la hâte de Marie. Ce n'est pas une consécration supérieure à celle de la grâce, c'est bien évident. Elle est pour que la consécration de la grâce puisse se réaliser pleinement. Alors, on enlève tous les obstacles et on essaie de mettre toute sa bonne volonté au service de cette consécration en vérité. Consacrer en vérité, c'est être enveloppé de la grâce et enveloppé de la source de toute grâce. C'est du Verbe de Dieu. C'est être un membre vivant du Christ. Et pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. C'est très très beau ça. Parce que ça fait comprendre le désir profond du Christ, de cette consécration. Mais ce serait peut-être une manière pour nous de bien comprendre l'exigence de la consécration religieuse. C'est de la regarder dans cette lumière. Jésus n'a pas besoin de la consécration religieuse. Pourquoi ? Parce qu'il atteint tout de suite le terme. C'est pour ça qu'au sens strict, Jésus ne pouvait pas réaliser les vœux de religion. Parce qu'il atteint le terme. Si nous étions dans le terme, nous n'aurions plus besoin de ce moyen. C'est parce que nous sommes pèlerins que nous avons besoin de ce moyen. C'est un moyen que Dieu, que l'Église nous présente pour nous sanctifier plus vite. C'est-à-dire pour nous consacrer en vérité plus vite. Et c'est parce que justement c'est un moyen qui nous permet de nous consacrer plus vite. On peut dire que les vœux prennent toute leur signification dans cette consécration en vérité. C'est dans cette consécration en vérité que les vœux prennent toute leur signification. Et cette consécration en vérité ne peut pas se comprendre en dehors du mystère de l'union hypostatique. Vous voyez là comment nos vœux nous relient au Fils bien-aimé. Consacré totalement au Père dans le Verbe, comme Fils bien-aimé. Les vœux, à ce point de vue-là, on ne doit plus dire vœux de religion, on doit dire vœux chrétiens, qui sont tout entiers ordonnés à l'épanouissement plus plénier de la foi, de l'espérance et de la charité. Consécration à l'égard de la foi, de l'espérance et de l'amour. Je crois que c'est beaucoup plus vrai que de considérer vœux de religion. Du reste, Vatican II, et le pape l'a repris dans son exhortation religieuse, n'emploie plus vœux de religion. C'est vétuste. Je ne sais pas comment on devrait dire, parce qu'on dit toujours religieux. Il y a quelque chose de plus que Vatican II a souligné et que le Saint-Père a repris. C'est une consécration dans les béatitudes évangéliques. Nos vœux, c'est pour vivre des béatitudes évangéliques. C'est pour vivre plus pleinement des béatitudes évangéliques. Et donc, à ce point de vue-là, ils sont plus immédiatement reliés aux vertus théologales qu'à la vertu de religion. Ils ne sont pas opposés à la vertu de religion, ils sont reliés à la vertu de religion dans la mesure où la vertu de religion est elle-même transformée par le don de piété, et par le don de piété, nos vœux sont rattachés à l'exercice de la vertu de religion. Mais voyez, par le don de piété, c'est-à-dire par la charité. Et je crois que c'est important, c'est très important pour nous de bien avoir cette lumière, parce que c'est dans la lumière directe de la prière du Christ. Et c'est très joannique. C'est ça que nous devons toujours essayer de découvrir, hein, tout reprendre dans la lumière de l'évangile de Saint Jean, pour nous mettre dans la lumière ultime de la révélation. Donc, il faut être très attentif à cette affirmation ou à ce désir de Jésus, consacre-les dans la vérité, ta parole à toi est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. On ne peut être envoyé dans le monde que si on est consacré avec le Christ. Vous comprenez très bien que si on n'est pas consacré dans la vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le monde aura une telle influence sur nous que nous serons contaminés par le monde. Et au bout d'un certain temps, on n'aura plus que la lumière du monde. On ne sera plus des envoyés du Christ. Pour être des envoyés du Christ, il faut vivre de cette consécration en vérité. Et si on vit de cette consécration en vérité, alors on est vraiment des témoins de Jésus. Et on ne peut être témoin de Jésus que si on est consacré en vérité. Après, ce point ultime, et c'est très beau, comme le regard dernier de Jésus sur nous. Ça rejoint la prédestination, ça. Nous sommes consacrés en fils bien-aimés. Nous sommes consacrés comme des fils bien-aimés. On est prédestinés à être enfants de Dieu. Et on est prédestiné à l'être en plénitude, enfant de Dieu. Et il faut que cette filiation soit directement reliée à celle de Jésus. Et c'est comme cela qu'on peut être consacré en vérité. Après nous avoir montré ce regard ultime sur nous, sur ceux qui reçoivent la parole de Jésus, les disciples immédiates, Jésus nous montre son regard qui s'étend. Cette prière du Fils bien-aimé connaît un certain ordre. Il a d'abord prié pour lui. Il a d'abord demandé pour lui, puis pour ses disciples, puis pour ceux qui sont au-delà de ses disciples. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, par leurs paroles, croient en moi, afin que tous soient un. Il n'y a pas de dégradé, c'est ça qui est merveilleux. Le principe de subsidiarité dans l'Église et au point de vue mystique n'existe plus. C'est vrai, le principe de subsidiarité, ça implique un ordre, une hiérarchie. C'est très très bien pour organiser. Quand il s'agit des travaux matériels, il faut toujours qu'il y ait le principe de subsidiarité. Il y a la tête, il y a celui qui vient après, il y a celui qui... et on descend toujours, toujours plus. Pour que le dernier petit piou-piou soit relié à la tête. S'il n'y a pas le principe de subsidiarité, le dernier petit piou-piou serait très très loin, très très loin. Vous dire, moi je ne sais pas ce que veut la tête, entre nous il y en a tellement. Grâce à cette descente progressive, l'autorité atteint le dernier. Ça c'est pour le fort externe. C'est pour le fort externe de l'Église. C'est pour le fort externe de la vie religieuse. Tout ce qui représente la réalisation temporelle. Il y en a une, il faut bien labourer le champ, peindre, faire la cuisine. Principe de subsidiarité, premier cuisinier, dernier cuisinier. Et le premier cuisinier, c'est toujours le prieur. Forcément, ça ne peut pas être autrement. C'est le premier, puisqu'il faut aller jusque-là. Il y a des intermédiaires, mais c'est toujours le premier. Et tout doit être justement dans l'autorité du premier. Quand il s'agit de l'aspect mystique de l'Église, le fort interne, il n'y a plus de principe de subsidiarité. Très intéressant pour le mystère de l'Église de bien voir ces deux aspects. Que l'Église maintient pour la vie religieuse. Pour la vie religieuse, fort interne, fort externe, c'est connu le droit canon, mais ça, en pleine lumière, et on voit très bien ce que ça représente. Le fort interne, quel est le plus saint ou la plus sainte d'une communauté? Vous ne le saurez jamais. Tandis que vous savez qui est le prieur. Vous savez qui est le père maître. Tandis que le plus saint, non. C'est merveilleux de ne jamais le savoir, parce qu'on peut toujours dire que c'est soi. Humblement, on peut toujours dire que c'est ça. Pour augmenter notre responsabilité. Vous voyez bien, ce n'est pas du tout pour s'enorgueillir. Mais il faut dire, c'est vrai, toute la communauté repose sur moi. Parce qu'elle repose sur nous dans la mesure où nous sommes saints. Plus la charité en nous est grande, plus nous sommes responsables. Moins la charité est grande, moins on est responsable. Ça, c'est sûr. Alors, si on est le plus saint dans une communauté, c'est pour ça, vous voyez, que Sainte Thérèse dit, hein, que « Seigneur, si c'est comme ça que vous traitez vos amis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. » On voit très bien, si on est le plus saint dans la communauté, c'est celui qui encaisse le plus. Celui qui porte le plus. C'est celui qui est tout toujours dans le champ de bataille, projeté à la première ligne. Tout le temps. Parce qu'il l'accepte et il le demande. Il demande à Dieu d'être toujours, toujours là où c'est le plus difficile. On a le droit de demander ça pour se sanctifier. Mais il ne faut pas, quand le difficile arrive, hein, partir à toute vitesse. Hein. Alors là, ça ne va pas. Vous avez demandé le plus difficile pour obtenir la sainteté dans l'ordre de l'amour. Alors, il faut accepter cette lutte. Il faut accepter cette lutte et accepter le combat singulier. Quand on cherche vraiment la sainteté, le démon rugit. Toujours. C'est pour ça que c'est bon signe, l'on dit le rugit. Quand il ne rugit pas, ça prouve qu'il nous traite comme des insignifiants. Il ne faut pas l'imaginer, hein, parce que ça ce serait parti de... Il ne faut pas l'imaginer. Mais autrement, quand le démon rugit et qu'on s'aperçoit bien qu'il rugit, c'est bon signe. Ça prouve que, oui, ça intéresse le démon. C'est quand même intéressant de voir ça. Ça intéresse le démon. Parce que dans l'Église, on doit porter davantage. On est plus proche du bon pasteur. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, par leurs paroles, croient en moi. voyez la hiérarchie qui existe, hein, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Vous voyez, au point de vue mystique, il n'y a plus de principe de subsidiarité, parce que c'est la finalité. Dès qu'on touche la finalité, il n'y a plus de principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité est dans l'ordre de l'autorité, dans l'ordre de la causalité efficiente. Alors là, ça joue. Tandis que dans la finalité, on est immédiatement relié. Mystiquement, on est immédiatement relié au Père. Et on est tous appelés à cette unité, à la même unité qui existe entre le Père et le Fils. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à la même unité qui existe entre Jésus et le Père, et nous sommes appelés à la même unité entre nous et avec Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là que nous avons beaucoup de peine, hein, à bien saisir ce mystère de la grâce. On est peut-être un peu loin. Oui, c'est vrai. 2000 ans nous séparent des apôtres. Si le principe de subsidiarité existe au point de vue du forain, vous voyez, hein, comme ce serait lointain. Mais comme de fait, dans l'ordre de la grâce intérieure, de la foi, de l'espérance et de l'amour, on est immédiatement relié au Christ. On est contemporain des apôtres. Mystiquement, on est contemporain des apôtres. On est tout proche d'eux. Il y a le même appel. Alors, c'est vrai, voyez aussi, pour nous, nous sommes historiquement, hein, selon le fort externe. Ah oui, il y a des places différentes. Il y a les premiers qui sont entrés dans la communauté, puis il y a les derniers qui postulent encore, n'est-ce pas ? Et donc, il y a un rang successif. Ça, c'est historique. Au point de vue intérieur, non. Tout est brûlé. Mystiquement, c'est l'éternité dans le temps. Et parce que c'est l'éternité dans le temps, on est relié immédiatement. Et c'est vrai alors pour nous aussi, vous voyez, pour chacun d'entre nous. Quand nous serons apôtres, nous communiquerons la parole de Dieu, où nous l'avons peut-être déjà communiquée. Et ceux à qui on communiquera cette parole de Dieu pourront être beaucoup plus saints que nous. Une des plus grandes grâces de la vie apostolique, hein, c'est d'avoir tout proche de soi des saints. C'est bien évident. Parce que quand on n'a que des gens qu'on a convertis et qui ne sont pas très saints, n'est-ce pas ? Quand ils sont très, très déconvertis et des saints, alors à ce moment-là, ils nous aident beaucoup parce qu'ils passent devant nous mystiquement. Et on le sent bien. Tandis qu'ils sont toujours derrière nous mystiquement. Tandis que la grande grâce de notre vie apostolique, c'est qu'il passe devant nous. C'est quelquefois pas commode, hein. Mais c'est la grande grâce de la vie apostolique. C'est d'avoir des disciples plus saints que nous. Des enfants, des fils spirituels, des fils plus saints que nous. Dépassant, allant plus loin. Ce n'est pas pour cela seulement que je prie mes poux, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croient en moi, afin que tous soient un. Dans votre prière, vous devez tout de suite, prière apostolique, prendre dans votre cœur tous ceux que vous rencontrerez dans votre vie d'apôtre. Tout de suite, même quand on est au noviciat. Notre prière doit avoir cette dimension apostolique. Notre prière doit avoir cette dimension universelle catholique. Et donc déjà dès maintenant, c'est ce que faisait saint Dominique. Il priait pour tous les pécheurs et tous les pécheurs qu'il rencontrera. Tous les pécheurs qui seront sur sa route. Il priait pour eux. Tous les hommes que nous rencontrerons. Tous les enfants que nous rencontrerons. Même les tout petits. Ils ne se rappelleront plus, ça ne fait rien, on a été proche d'eux. Et si on les a bénis, et si de fait on les a aimés au nom de Dieu, eh bien éternellement il y a un lien de charité. Et ces tout petits passeront peut-être avant nous, Et nous en serons très heureux. Et à ce moment-là, s'ils passent avant nous et qu'on les a bénis, vous voyez, ils vous béniront éternellement. C'est ça qui est impliqué dans cette prière. Vous voyez, c'est ce regard de Jésus qui s'étend jusqu'à nous et qui nous apprend à prier de la même façon. Car ce n'est pas pour cela seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croient en moi, afin que tous soient un. Alors là, immédiatement, au point de vue de la finalité, l'unité est le fruit de l'amour. Donc, c'est la finalité qui fait l'unité. Seule la finalité fait l'unité. Il faut toujours se rappeler ça pour l'œcuménisme. Seule la finalité fait l'unité. Ce n'est pas du côté de l'efficacité, ce n'est pas du côté formel, c'est du côté de la finalité. C'est la finalité qui seule unifie. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Alors là, c'est aussi très très fort. Comme toi, Père, tu es en moi. Et Jésus commence de cette manière, et moi en toi. Qu'ils soient en nous, eux tous, eux aussi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alors on est témoin dans la mesure même où on vit de cette unité. Donc c'est par cette réalisation dans l'ordre de l'amour de l'unité qu'on témoigne pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, plus que la parole, c'est l'unité fraternelle entre nous. C'est pour ça que l'Esprit Saint a tellement besoin d'une communauté, de petites communautés, qui témoignent avec une très grande ferveur l'unité qui existe entre tous. Une unité qui est divine, ce n'est pas une uniformité, ce n'est pas tous être de la même taille, heureusement, mais c'est une unité profonde qui vient de Dieu. Et cette unité profonde qui vient de Dieu, qui fait qu'on accueille Jésus en nous, comme Jésus accueille le Père en lui, la manière dont Jésus accueille le Père en lui, comme toi, Père, tu es en moi. Dans son cœur d'homme, le Père est présent. Et le Père est présent, il est accueilli. Il vit de cette unité avec le Père. Et moi en toi. La réponse du Fils bien-aimé. Et vous voyez, c'est bien le Fils bien-aimé. Hein, parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de caractéristique au Fils bien-aimé. Comme toi, Père, tu es en moi. Et moi en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, pour que le monde croie qu'ils soient en nous eux aussi, donc en Jésus et en le Père. Vous voyez bien que c'est le primat de la vie contemplative. Et l'unité d'une communauté est premièrement du côté contemplatif. Ce qui est très très important à nous rappeler ça. L'unité d'une communauté est premièrement dans cette perspective contemplative, c'est-à-dire être dans le Christ et dans le Père, avec tout ce que ça exige comme attitude contemplative, comme attitude d'intimité avec le Jésus et le Père. S'il n'y a pas cette unité, l'autre unité ne pourra pas exister. Normalement, toujours, hein, on progresse dans l'unité dans la mesure où on progresse dans la contemplation. Et une communauté est une dans la mesure même où chacun des membres désire intensément cette unité qui se réalise dans la contemplation. Si un des membres ne veut pas cette unité, nécessairement il devient un poids lourd. Il arrête, il sépare, il divise. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. On témoigne par là de l'union intime du Fils et du Père. On témoigne par là ce mystère du Père qui envoie son Fils. On témoigne par là que le mystère de l'Église provient de cette mission du Père à l'égard du Fils. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, la première unité, c'est dans le Christ et dans le Père. La seconde unité, elle est entre les membres du Christ. Et vous voyez l'insistance de l'unité, hein. C'est cette insistance de l'unité, c'est parce que justement cette unité, c'est le fruit de l'amour. Et comme l'amour regarde à la fois le Christ, Dieu et les hommes, on comprend très bien qu'il y a ces deux unités. Mais il y a un ordre entre les deux. Il ne faut jamais l'oublier, il y a un ordre entre les deux. C'est toujours l'ordre d'amour à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus qui est premier. Tout le temps. Ça, il faut en être convaincu. Et il faut essayer d'en vivre. Parce que si on n'est pas convaincu dès le noviciat, ça disparaîtra. C'est beaucoup plus difficile, vous comprenez. L'autre est visible. C'est plus facile. C'est pas toujours commode. Mais c'est plus facile d'aimer son prochain qu'on voit que d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Le seul avantage, c'est qu'on ne se trompe jamais auprès de Dieu, tandis que vis-à-vis de son voisin, on peut se tromper, en ce sens qu'il peut disparaître du jour au lendemain, on ne sait pas comment. Il peut être difficile aimable pour des quantités de raisons. Mais c'est plus facile d'aimer ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas. Et cependant, il faut comprendre que ce qu'on ne voit pas, c'est cet amour à l'égard de Jésus et du Père. Et que cet amour, il est premier. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je le leur ai donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, un petit problème, vous voyez, point de vue théologique. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils se trouvent accomplis dans l'unité. Pour que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as envoyés comme tu m'as envoyé. Comme c'est fort. Hein. Vous voyez, quand le Saint-Père dit que la mission de l'Église est la même mission que Jésus, c'est dit explicitement. C'est dans l'Écriture, ça. Notre mission, c'est la mission du Christ. Comme le Père a envoyé le Fils nous envoie. Et c'est dans la même mission. Et donc tout ce qui est de la mission du Christ est nôtre, et ce qui n'est pas de la mission du Christ n'est pas notre mission. Ça va très loin, ça, évidemment. Alors vous voyez, ici, il faut bien comprendre que Jésus fait appel à la gloire, et moi, la gloire que tu m'as donnée, je le leur ai donnée. Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc l'unité entre nous, dans une communauté chrétienne, l'unité entre les différents membres, l'unité entre nous, provient directement et causée directement de la gloire que Jésus a reçue du Père. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je le leur ai donné. C'est le mystère de la gloire qui explique l'unité entre les membres d'une communauté chrétienne. C'est le mystère de la gloire du Christ. Jésus demande la gloire pour qu'il y ait l'unité entre les membres du Christ. on a vu dès le point de départ, hein, glorifie ton fils et moi la gloire que tu m'as donnée. Et il précise, hein, la gloire avant que le monde fût. Et j'ai essayé de vous expliquer que la gloire, c'est la victoire de l'amour, c'est la fécondité de l'amour et la victoire de l'amour. Or, cette fécondité et cette victoire de l'amour dans le Verbe de Dieu, c'est d'être un avec le Père dans l'aspiration de l'Esprit Saint. Et c'est cette gloire qui est donnée à Jésus par le Père. Et c'est cette gloire que Jésus demande pour nous. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je le leur ai donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est donc cette gloire qui fait l'unité. Dans la mesure où nous sommes glorifiés de la gloire du Christ, nous sommes capables d'être un entre nous, comme nous sommes un profondément avec Jésus et avec le Père. C'est là, je crois, très très beau ça. Si cette gloire propre de Jésus, c'est de spirer l'amour avec le Père et donc d'envoyer l'Esprit Saint. L'unité d'une communauté ne peut exister que si on voit comment nous sommes les uns pour les autres, source du don de l'Esprit Saint. Avec Jésus et en lui. Puisque c'est le mystère de la gloire. Et donc la victoire de l'amour. Et que nous sommes les uns pour les autres des envoyés de Dieu, source de l'Esprit Saint. Et que c'est cet envoi de l'Esprit Saint qui nous fait comprendre cette victoire de l'amour. Autrement dit, et c'est peut-être là qu'est quelque chose de très très beau et de très grand à saisir pour nous, l'unité qui se fait avec Jésus, avec le Père, cette unité intérieure, toute d'amour, elle est invisible. J'allais dire, elle est plus facile et instrument efficace. L'unité avec nos frères implique une incarnation de cet amour. Elle est plus difficile parce que nos frères ne sont quand même pas Jésus. Ils sont Jésus d'une certaine manière, mais ils ne sont pas entièrement, c'est vrai. Alors, vis-à-vis de nos frères dans la charité fraternelle, nous savons très bien que les trois concupiscences sont là pour freiner et empêcher l'exercice de la charité fraternelle. La concupiscence de la chair, à la place d'aimer d'une façon divine, on aime d'une façon charnelle. La concupiscence des yeux, la grosse vanité, très accepter quelqu'un passe devant vous par le cœur. Alors, parce qu'il passe devant vous, vous lui faites toutes les possibilités qu'il dégringole au bon moment où il passe devant vous. Hein. Petit croche-pied spirituel, c'est bien évident, n'est-ce pas? Alors vous essayez par tous les moyens qu'il ne passe plus devant vous. Les bavardages qu'on peut faire contre quelqu'un par jalousie, par rivalité, la concupiscence des yeux, l'orgueil. Les trois concupiscences luttent contre l'unité dans une communauté. Ça, c'est net. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de la vie. Face à ces concupiscences, qui existeront toujours hein, jusqu'à notre mort, face à ces concupiscences, à ces arrêts, à tout ce qui vient freiner, à tout ce qui vient corrompre la charité paternelle, la dévoyer. La prière du Christ est là. Et la prière du Christ nous est donnée. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. C'est cette gloire que le Père a donnée à son Fils, que Jésus veut nous donner pour l'exercice victorieux de l'amour dans l'ordre de la charité fraternelle. Pour que la charité fraternelle qui nous unisse soit victorieuse de la concupiscence de la chair, de la concupiscence des yeux, de la concupiscence de la vie. C'est à travers ce don que Jésus nous fait actuellement, par où il nous fait découvrir cette action merveilleuse de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que la charité fraternelle est victorieuse de toutes les concupiscences. C'est par l'action de l'Esprit Saint, c'est pas par nous. Par nous, c'est impossible. Il faut un exercice divin de la charité fraternelle. Il faut l'exercice divin, c'est-à-dire l'exercice direct de l'Esprit Saint. Alors s'il y a l'exercice direct de l'Esprit Saint, alors à ce moment-là, la charité fraternelle est victorieuse de toutes les concupiscences. Alors chaque fois, voyez que nous sentons une petite concupiscence. Hein, quand on est un peu lucide. J'aime beaucoup ce frère. Je l'aime tellement que... Je l'aime trop, humainement parlant. Il est tellement délectable pour moi que je veux toujours qu'il soit là présent. Et on arrive toujours à être présent l'un à côté de l'autre. Vous voyez, alors, cette présence sensible, qui est très bonne en soi, mais qui peut très bien arrêter l'exercice divin de la charité fraternelle. Alors, dès qu'on sent ça, immédiatement on fait appel à l'Esprit Saint, qui nous donne une limpidité plus grande de cœur et qui nous permet de ne pas laisser dégrader la charité fraternelle dans un amour de concupiscence. C'est la même chose pour la vanité. Quand un frère nous agace parce que quand il est là, on ne parle plus que de lui. Ça nous agace prodigieusement. Il faut faire appel à l'Esprit Saint pour que nous soyons plus donnés sous le souffle de l'Esprit Saint et que nous comprenions que les regards des hommes, c'est quelque chose de temporel, ça ne signifie pas grand-chose. La louange des hommes, c'est quelque chose de temporel, ça ne signifie pas grand-chose. Que les journaux parlent de nous, ça ne signifie pas grand-chose, c'est temporel. Ça brûlera avant le jugement éternel, donc c'est pas grand-chose. Et dès que nous sentons cet orgueil qui nous fait juger et qui fait que nous mettons toujours le premier, et que dans nos rêves, hein, ça n'a pas d'importance, ce sont nos rêves, mais quelquefois, ces rêves reviennent toute la journée. Hein. Et nous jouons ce rôle particulier d'être au centre et de tout juger par nous-mêmes. Alors, à ce moment-là, il faut faire appel immédiatement au souffle de l'Esprit Saint qui nous fera vivre des béatitudes évangéliques. Et l'Esprit Saint, vivant de cette façon, nous permettra de dépasser ces tentations. On comprend très bien, c'est d'une densité merveilleuse parce que c'est tellement fort. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donnerai pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça, c'est la grande victoire de l'amour. Moi en eux et toi en moi. Pour qu'il se trouve accompli dans l'unité, pour que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est donc bien ce mystère d'amour qui existe entre le Fils bien-aimé et le Père qui doit s'étendre sur chacun d'entre nous pour réaliser cette grande victoire de l'amour. Et c'est cette grande victoire de l'amour qui est le témoignage le plus fort, qui est le témoignage par où nous sommes des envoyés du Christ et que nous travaillons toujours à son service et que nous travaillons toujours pour lui et non pas pour notre propre gloire mais pour sa gloire, pour son amour, pour la victoire de son amour. Alors, la dernière partie, dernier moment, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, moi, cela aussi soit avec moi, pour qu'il voie la gloire, la mienne, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et le retour à la contemplation, c'est très net, il y a ce mouvement, hein, ce mouvement de contemplation, la charité fraternelle, et le retour à la charité fraternelle, le retour à la contemplation à partir de la charité fraternelle. Parce que la charité fraternelle ne termine pas. C'est le dernier moment de l'extension, mais ce n'est pas le dernier moment de l'intensité. Le dernier moment de l'intensité, c'est le retour vers Jésus et par lui vers le Père. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, moi, cela aussi soit avec moi, pour qu'il voie la gloire, la mienne que tu m'as donnée. Contempler la gloire du Christ. Contempler la gloire du cœur blessé de l'agneau. C'est cette contemplation dernière. Nous avons tout reçu de lui, et alors c'est lui que nous contemplons. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, moi, cela aussi soit avec moi, pour qu'il voie la gloire, la mienne, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et qu'à travers cette gloire, il découvre l'amour. En contemplant cette gloire, il contemple l'amour. Les deux choses se tiennent, puisque l'amour, la gloire, c'est cette victoire de l'amour. Père juste, le monde, lui, ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi aussi en eux. Alors, voyons ce retour vers le Père, ce vado ad patrem, ce terme qui doit être contemplatif, qui doit se retourner vers Jésus, vers le Père, dans l'unité. Père juste, le monde, lui, de ta foi. Père juste, le monde, lui, ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Cette connaissance du Père qui envoie le Fils. Cette connaissance du Père qui est tellement liée à son Fils bien-aimé, et donc à nous, par son Fils bien-aimé. Père juste, le monde, lui, ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et le leur ferai connaître, donc le mystère de la gloire, le mystère de la croix, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi aussi en eux. Encore une fois, ce même amour par lequel le Père a aimé son Fils bien-aimé, c'est ce même amour est le ciment de l'Église. C'est ce même amour qui nous unit tous. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi aussi en eux. C'est vraiment le même amour qui doit être victorieux de tout ce qui est, tout ce qui vient nous limiter, tout ce qui vient nous arrêter, tout ce qui nous empêche d'être pleinement à la taille de cette filiation divine, à la taille de cette manifestation. C'est ce mystère de l'amour du Fils bien-aimé pour le Père. On sait qu'il est unique et on sait en même temps qu'il nous est communiqué et donné. Et c'est là, vous voyez, où ça s'unit le point de vue de la charité fraternelle et de la contemplation.